Chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue à cette table ronde sur le thème de la parole prophétique dans le courant du christianisme des origines, aujourd'hui à toutes les époques, et la tentative d'éliminer les communes des origines, tous ceux qui étaient dans le sillage de Jésus de Nazareth. Nous sommes des chrétiens des origines dans le sillage du Christ de Dieu, le Fils de Dieu, notre frère et rédempteur. Alors qu'il était sur cette terre en Jésus de Nazareth, il annonça la venue des prophètes pour les temps à venir en disant « C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ». C'est ce que l'on peut lire dans la Bible et c'est ce qui s'est passé. À toutes les époques, le royaume de Dieu a envoyé des prophétesses et des prophètes à travers lesquels Dieu, l'Éternel, et le Christ de Dieu ont pu s'adresser aux communes des origines. C'est la parole de Dieu, sa présence éternelle, qui s'est exprimée dans différents pays et à différentes époques pour apporter aux chrétiens, dans leurs situations respectives, des aides et des conseils pour vivre selon les 10 commandements et le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth. À notre époque, la sagesse de Dieu elle-même, le séraphin de la sagesse divine, a vécu parmi nous, incarné dans la prophétesse et messagère de Dieu, Gabrielle Sophia, la première fille de Dieu dans les cieux éternels. Ainsi, une autre promesse de Jésus de Nazareth s'est accomplie dans toute son ampleur pendant près de 50 ans. En effet, il dit à l'époque, et ces paroles ont été transmises à toute la chrétienté à travers des Bibles, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les comprendre. Mais lorsque viendra l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. »
Cet Esprit de la vérité qui conduit dans toute la vérité est venu. Et depuis le retour de Sophia dans la patrie éternelle, c'est désormais un fils spirituel de la sagesse qui, en tant que prophète de Dieu, donne directement la parole éternelle en cette époque de plus en plus menaçante. De plus, l'année 2024 a marqué le début de l'ère messianique et sophianique sous le signe du Lys, une nouvelle ère annoncée et prédite par de nombreux messagers de Dieu des temps anciens, dans laquelle se prépare le retour en esprit du Christ et où seul l'amour pour Dieu et pour le prochain a de l'importance. La nature même de Dieu est l'amour dans toute sa plénitude. Dieu n'est pas le Dieu des religions qui punit ou châtie par le feu de l'enfer ou d'autres mesures répressives. Il est un Dieu d'amour, qui avertit, met en garde, et qui donne d'innombrables aides à toutes les personnes de bonne volonté afin qu'elles retournent également dans ce courant d'amour qui est en fait la nature véritable et profonde de tout être humain. Ce Dieu, le Dieu Père-Mère de toute vie, n'a jamais abandonné ses enfants. Il prend soin de toutes ses créatures et il va à la recherche de chacune des âmes qui ont quitté le chemin de l'amour pour Dieu et pour le prochain et qui, consciemment ou inconsciemment, végètent sur terre sous l'emprise des forces obscures. Ces forces qui, au cours des éons, se formèrent à partir des événements de la chute, c'est-à-dire lorsque des êtres spirituels se séparèrent de l'unité de la création divine, ce qui est qualifié par la chrétienté de chute ou chute de l'homme. En effet, chaque être spirituel, chaque âme, a reçu de Dieu l'immense cadeau qu'est la liberté de mener sa vie soit dans le courant de l'amour de Dieu, soit en s'en écartant, mais en assumant alors les conséquences négatives de ses choix.
Au cours des siècles, avant et après la venue de Jésus de Nazareth, Dieu l'Éternel envoya régulièrement ses messagers, ses prophétesses et ses prophètes pour appeler ses enfants incarnés en leur disant en substance : Rebroussez chemin et mettez en pratique mes commandements, car le royaume de Dieu, le royaume de paix, est proche. Il est aussi en vous, en chacun de vous. Prenez conscience de ce qui vous sépare encore de l'amour de Dieu, réglez ses aspects négatifs et n'agissez plus ainsi. Depuis des temps immémoriaux, ces paroles contiennent substantiellement la promesse suivante. Dieu, l'Éternel, le Dieu Père-Mère, est le Dieu proche. Il est plus proche de vous que vos bras et vos jambes. Il vous aide à chaque instant et vous donne la force de trouver le chemin de la paix, du bien-être profond et du bonheur.
L'annonce faite par Jésus de Nazareth à ses disciples « Je leur enverrai des prophètes » était également accompagné de mises en garde prononcées à l'encontre de ses adversaires et de leurs partisans qui persécutèrent sans cesse les messagers de Dieu et firent même assassiner nombre d'entre eux. Car les forces démoniaques issues de la chute ont toujours craint la parole éternelle de Dieu qui plaide notamment pour l'égalité entre tous les êtres humains et dénonce toute velléité de pouvoir, de hiérarchie. C'est pourquoi, au cours des siècles passés, les responsables ecclésiastiques et étatiques combattirent sans relâche les chrétiens des origines, les femmes et les hommes justes qui voulaient mettre en pratique ce qu'Isaïe avait déjà annoncé. Isaïe, un prophète de Dieu de l'Ancienne Alliance, dans lequel s'était incarné le chérubin de la sagesse divine, avait révélé « Le loup habite avec l'agneau. » La panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau paissent ensemble, sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours se lient d'amitié. Leurs petits sont couchés l'un près de l'autre. Le lion se nourrit d'herbe et de paille. Le nourrisson joue devant le nid de la vipère. L'enfant met sa main dans le trou du serpent. Il ne se fait plus aucun mal sur toute ma montagne sainte, car le pays est empli de la connaissance du Seigneur, comme la mer est remplie d'eau.
Des siècles auparavant, Abraham, le prophète de Dieu dans lequel était incarné le chérubin de la rectitude divine, avait entendu en lui-même l'Éternel lui dire, je cite, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple et je bénirai les autres par toi. » Ainsi, les cieux ont de tout temps envoyé leurs messagers sur terre, les prophétesses et prophètes de Dieu, également après la venue de Jésus de Nazareth, afin d'assister les communes des origines grâce à sa parole éternelle, sa protection et sa force. Mais tous les vrais prophètes de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, Job, Moïse, Élie, Isaïe, Osée, Amos, Jérémie, Jean-Baptiste et plus tard Jésus de Nazareth, ont connu un sort extrêmement dur. Il y eut aussi régulièrement des prophétesses de Dieu, dont il ne reste que peu de traces. Beaucoup furent assassinés ou échappèrent de justesse à ce sort, mais souffrirent énormément.
Également après Jésus de Nazareth, le premier fils de Dieu, le royaume de Dieu envoya dans toutes les générations des prophétesses et des prophètes sur terre, à commencer par le séraphin de la sagesse divine, dont la dernière incarnation fut à notre époque en la prophétesse de Dieu Gabrielle Sophia. Au cours des siècles précédents, elle avait déjà traversé de nombreuses incarnations éprouvantes et douloureuses, au cours desquelles elle subit persécution, torture et exécution, un sort partagé par tous les messagers de Dieu sur terre. Cette persécution s'est poursuivie au cours des années et décennies passées, prenant la forme de calomnies fomentées par les représentants de l'Église, de l'État et des médias. Au cours de cette émission, nous souhaitons donner un petit aperçu des époques qui ont suivi celle de Jésus de Nazareth. Sa promesse d'envoyer des prophètes et de conduire les êtres humains pas à pas dans toute la vérité s'est réalisée à maintes reprises, afin que ces derniers puissent retrouver et développer le royaume de Dieu en eux, et qu'ainsi les fondements d'un royaume de paix sur terre puissent être posés à l'extérieur. C'est également une préparation au retour de toutes les âmes et de tous les êtres humains qui ont une âme dans leur patrie éternelle, la patrie qu'ils ont quittée au cours de la chute il y a des temps immémoriaux.
D'une époque à l'autre, de génération en génération, les véritables prophétesses et prophètes de Dieu, ainsi que de nombreux hommes et femmes justes, se heurtèrent sans cesse à une résistance acharnée de la part de prêtres et de dirigeants religieux qui, avides de pouvoir et de domination, se dressèrent contre eux et les persécutèrent. Cela a également eu lieu au cours des 2000 ans passés. Parallèlement, les dirigeants de l'Église affirment jusqu'à aujourd'hui que l'annonce faite par Jésus de Nazareth, selon laquelle il enverra des prophètes vers les chrétiens des origines et dans les communes des origines, aurait été reportée sur eux, les prêtres, les fonctionnaires de l'institution ecclésiastique qui s'est créée par la suite. C'est pourquoi, selon une déclaration du Vatican de 1994, l'esprit qualifié de « saint » dans les églises, je cite, « confère aux prêtres la mission prophétique lors de son ordination. Selon la doctrine de l'Église, les prophètes annoncés par Jésus de Nazareth auraient donc été remplacés par les prêtres catholiques. En réalité, depuis ses débuts, la caste des prêtres a suivi le principe de l'adversaire de Dieu, résumé par les mots « éliminer l'esprit ». Ce que ces actes ont prouvé siècle après siècle. Il en a toujours été ainsi, et il en était déjà ainsi, à l'époque de Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu et le plus grand des prophètes rappela seulement aux autorités religieuses et aux érudits de son temps que la caste des prêtres avait fait persécuter et assassiner les prophètes de Dieu qui l'avaient précédé. Il expliqua également à ses contemporains comment les théologiens s'arrogèrent la mission des messagers de Dieu. La Bible rapporte à ce sujet les paroles suivantes de Jésus. « Les scribes sont assis sur la chaire de Moïse. » Moïse était un grand prophète de Dieu de l'Ancienne Alliance. En lui était incarné le chérubin de l'ordre divin et il apporta aux êtres humains les 10 commandements que Jésus approfondit dans son sermon sur la montagne. Jésus de Nazareth s'adressa sans ambiguïté aux théologiens qui se présentaient au peuple comme les successeurs de Moïse. Je cite ses paroles. « Malheur à vous, hypocrites, qui fermez aux êtres humains le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Par conséquent, ils sont des faux prophètes.
Des siècles plus tard, les disciples protestants de Martin Luther, qui formèrent avec leurs théologiens leur propre Église, parallèlement à celle du Vatican, suivirent eux-mêmes la même ligne meurtrière. Luther rédigea même un écrit intitulé « Contre les prophètes célestes ». Il les calomnia en les qualifiant de « rêveurs », les fit également persécuter et priver de leurs droits, exigeant l'exécution de ceux qu'il appelait pourtant les anges du ciel, qui étaient en habit terrestre, s'ils ne se soumettaient pas à la nouvelle Église protestante qu'il dirigeait. Jusqu'à nos jours, les papes, évêques, prêtres, pasteurs et théologiens des différentes confessions déforment et falsifient le message chrétien, notamment le commandement sans équivoque « Tu ne tueras pas ». Ils poussèrent d'innombrables personnes dans des guerres cruelles ou les firent assassiner d'une autre manière. À la place du Dieu d'amour que Jésus de Nazareth et tous les véritables prophètes de Dieu nous ont fait connaître, Ils instaurèrent l'image d'un dieu punisseur et châtieur, veillant sévèrement sur les dogmes, les sacrements, les professions de foi et les prescriptions religieuses mises en place par eux-mêmes. Un dieu qui menace même d'un soi-disant enfer éternel tous ceux qui s'en écartent. Le tout dans le but d'intimider tous les êtres humains sur cette terre et de les soumettre au pouvoir ecclésiastique respectif.
Mais comment cela a-t-il pu se produire? Comment une telle chose a-t-elle pu se développer? Avant de regarder de plus près les événements fatidiques et la véritable folie meurtrière qui a régné dans les institutions ecclésiastiques au cours des derniers siècles, nous aimerions expliquer brièvement comment ce système religieux a vu le jour. Au vu des faits horribles dont il est l'auteur, on pourrait également l'appeler le système Baal, du nom du dieu idole Baal, l'adversaire de Dieu l'Éternel, tel qu'il était appelé dans l'Ancienne Alliance avant Jésus de Nazareth. Jésus, le charpentier de Nazareth, avait exhorté une nouvelle fois les êtres humains à mettre en pratique les 10 commandements révélés par le prophète de Dieu Moïse. Mais tel que le révéla le prophète Jérémie, de nombreuses paroles transmises par Moïse furent transformées par la plume mensongère des docteurs de la loi et diffusées en usurpant son nom. En d'autres termes, les paroles de Moïse furent falsifiées par les érudits. Et le jeune homme courageux de Nazareth enseigna dans son sermon sur la montagne, de manière simple et révolutionnaire, l'amour pour Dieu et pour le prochain, et rien d'autre, qui est également résumé dans la règle d'or « Comportez-vous envers les autres comme vous voulez qu'ils le fassent envers vous ». Il n'a pas parlé de lois religieuses, de dogmes, de cultes, de sacrements, de cérémonies, de théologies, de coutumes et de traditions. Rien de cela, seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain. Par ses paroles et ses actes d'amour, Jésus le Christ a enthousiasmé de nombreuses personnes qui décidèrent alors d'accomplir la volonté du Dieu d'amour et de changer fondamentalement leur vie dans ce sens.
Mais surtout Saül, docteur de la loi et ancien pharisien appelé plus tard Paul, ainsi que ses disciples qui, avec leur conception basée sur la soumission à l'autorité, la domination et la religion, infiltrèrent les communes des origines qui, jusqu'alors, étaient des communautés mettant en pratique le service désintéressé. Selon Paul, les autorités étaient censées être porteuses de l'épée de Dieu, représentant l'autorité divine, et dans les communes qui étaient sous son influence, les femmes devaient se taire. Ainsi, la parole prophétique passa de plus en plus à l'arrière-plan, ou fut même totalement interdite aux femmes, jusqu'à disparaître complètement dans ce cadre. Parallèlement, dans la période qui suivit celle de Paul, le message simple de l'amour pour Dieu et pour le prochain fut de plus en plus remplacé par un système religieux rigide, avec des règles de foi, les futurs dogmes, avec des sacrements et des rituels, un système administré par une hiérarchie de prêtres qui devinrent des autorités, bien que Jésus n'avait jamais voulu de prêtres et qu'il ait promis à ses disciples d'envoyer régulièrement des prophètes et prophétesses de Dieu. À la place, les nouveaux faiseurs d'opinion au pouvoir s'inspirèrent de manière imperceptible des cultes idolâtres et tyranniques de l'Antiquité qui pratiquaient des cultes sanguinaires, tels que le culte de Baal et son polythéisme. Ils imitèrent dans leurs sacrements et rituels nombre de ces pratiques idolâtres. Ce fut le début de ce qu'on appela dès lors le catholicisme primitif, puis rapidement l'Église catholique, qui n'avait finalement plus rien de chrétien, mais était une résurrection progressive des cultes idolâtres antiques, enrichis de quelques éléments empruntés à l'enseignement de Jésus, dans le but de tromper le peuple en prétendant que cette nouvelle religion de prêtres serait chrétienne.
Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin privilégia ce système par rapport aux autres religions. Puis, à la fin du siècle, l'empereur Théodose le déclara unique religion d'État. Depuis lors, comme on le sait, son histoire a laissé derrière elle une trace ininterrompue de sang et de souffrance, raison pour laquelle nous l'appelons souvent « système Baal », du nom du chef suprême et violent des dieux idoles des temps anciens. Le nom de « chrétien » n'était donc qu'une façade. En effet, comme le prouve l'histoire de l'Église, ce système devint le plus puissant adversaire de tous les disciples libres du Christ et de toutes les personnes de bonne volonté qui, avec leur cœur et leur raison, voulaient vivre en chrétiens, emplis de droiture et sans être liés à une religion extérieure. Ils se regroupèrent dans des communes des origines au sein desquelles Dieu, l'un universel et éternel, et le Christ lui-même, donnaient par la parole prophétique des aides et des enseignements, tels que c'est encore le cas de nos jours.
Walter Nick, professeur et théologien suisse, écrit à ce sujet dans son livre intitulé « Penseurs prophétiques » « Le Dieu qui parle est ce qu'il y a de plus puissant dans le phénomène prophétique. Les prophètes mènent une lutte passionnée pour l'âme du peuple. Ils ont élevé cette voix qui défend la justice. Aussi différente que fut la vie de chaque prophète, ils ont tous en commun un destin extrêmement difficile. Les prophètes n'ont jamais été accueillis à bras ouverts. Leurs contemporains ont toujours opposé une forte résistance à leurs paroles. Leur vie fut sans exception pesante. Ils ont souvent donné une expression poignante à des souffrances indicibles. Être prophète est l'une des destinées les plus difficiles qui soient pour un être humain. » Fin de citation du professeur Walter Nick dans son livre intitulé « Penseurs prophétiques ».
Toutefois, malgré les calomnies, les persécutions et les meurtres, la nouvelle religion du pouvoir n'a pas pu éliminer le Dieu qui parle, l'esprit vivant de Dieu, même si les récits de l'histoire dominés par la censure aient jusqu'à aujourd'hui falsifié ou passé sous silence beaucoup de choses. Dieu, l'Éternel, donna sa parole hors de l'Église, dans les communes du christianisme des origines, ou bien, lorsque cela était encore possible, pendant un certain temps, à travers certaines personnes au sein des institutions ecclésiastiques. C'est pourquoi les dirigeants du système ecclésiastique tentèrent, après la mort de certains de ces messagers de Dieu, de les récupérer, tout comme ils tentèrent de le faire depuis le début avec Jésus le Christ. Jusqu'à aujourd'hui, ils usurpent le nom du Fils de Dieu, le plus grand prophète de tous les temps, pour atteindre les buts de leur Église. Mais les véritables prophètes et prophétesses de Dieu ne cessèrent de dénoncer cette usurpation. Nous présentons ici quelques-uns d'entre eux.
L'histoire officielle qualifia les chrétiens des origines du IIe siècle de « montanistes », d'après le nom de Montanus, un messager de Dieu. Parti de Phrygie, au centre de la Turquie actuelle, ce mouvement du christianisme des origines se répandit jusqu'en France et en Afrique du Nord. On y trouvait principalement des prophétesses, parmi lesquelles Prisca ou Priscilla, Maximia et plus tard Quintilla. Prisca dit d'elle-même « Le Christ a déposé la sagesse en moi. » Et Maximia « Le Seigneur m'a envoyée en tant que révélatrice et interprète de l'alliance et de la promesse. » C'est pourquoi elle ajoute « Ce n'est pas moi que vous devez écouter, mais le Christ, c'est-à-dire ce qu'il dit à travers la parole prophétique. » Et dans les communes des origines qui mettaient en pratique ce que disait la parole prophétique, les personnes aspiraient à construire une nouvelle Jérusalem dans l'esprit du Christ. la puissance spirituelle des prophétesses et prophètes du christianisme des origines convainquit également Tertullien, qui était jusqu'alors docteur de l'Église à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Dans son célèbre ouvrage intitulé « De l'âme », il décrit comment, dans la commune à laquelle il s'était rallié, agissait une prophétesse qu'il appelait simplement une sœur. Je cite « Comme nous reconnaissons les dons spirituels, il est aujourd'hui parmi nous une de nos sœurs douée du pouvoir des révélations. Elle converse avec les anges, quelquefois avec le Seigneur lui-même. Elle voit, elle lit dans les cœurs de quelques-uns et donne des remèdes à ceux qui en ont besoin. »
Hippolyte de Rome, évêque élevé au rang de saint, n'avait que du mépris pour de tels récits. Selon lui, les chrétiens des origines dans leur commune sont, je cite, « séduits par des femmes qu'ils appellent prophétesses et ils prétendent que l'Esprit, le Consolateur, est descendu sur elles. » La calomnie fut suivie d'une persécution de plus en plus intense. Maximilla en témoigne par ces mots. « Je suis persécuté comme un loup parmi les brebis. Je ne suis pas un loup, je suis parole, esprit et force. » Ces paroles de la prophétesse montrent clairement l'unité intérieure qui relie le Christ à son instrument, sa traductrice. Il est tout à fait possible que Maximilla ne se référait pas à elle-même en prononçant les paroles « Je suis parole, esprit et force », mais que cette phrase faisait partie d'une révélation donnée à travers elle et dans laquelle le Christ rendait témoignage de lui-même à travers son porte-parole, la prophétesse. Mais de telles révélations ont toujours été tournées en dérision par les institutions religieuses qui rejetaient la parole prophétique.
Après la prise de pouvoir progressive de l'Église catholique jusqu'à être promue nouvelle religion d'État au IVe siècle, les communes des origines et leurs messagers de Dieu furent persécutés de manière toujours plus cruelle. Leurs livres étaient brûlés. Ils étaient menacés de la peine de mort, de bannissement et d'expulsion. Il leur était interdit de tenir un repas de l'amour et même de se réunir de manière générale. Leurs maisons étaient saisies et transférées à l'Église catholique, ou encore une maison dans laquelle des chrétiens des origines s'étaient réunis prit feu. Ils y brûlèrent vifs. Ils ont mis le feu eux-mêmes, se moquèrent leurs adversaires de l'époque. Et les paroles que Jésus avait adressées autrefois à ses adversaires prirent un sens toujours plus actuel. « Vous avez pour père le diable, il a été un meurtrier et est un menteur dès le commencement. » Chers amis, il en fut ainsi à l'époque, mais comment les choses se sont-elles poursuivies depuis? Et qu'en est-il aujourd'hui?
À toutes les époques, des êtres spirituels et des âmes quittèrent leur patrie éternelle et, pour servir leurs frères et sœurs déchus sur terre, s'incarnèrent en tant que prophétesses et prophètes, à travers lesquels le Christ, le Dieu Père-Mère, ou d'autres êtres spirituels purs du royaume de Dieu, purent s'exprimer au sein des communes des origines. Parfois, ils percevaient aussi la parole intérieure qui éventuellement s'adressait uniquement à eux-mêmes et non aux autres, jusqu'à ce que la mission prophétique perce dans leur vie de messager de Dieu sur terre. Seuls quelques témoignages authentiques ont été préservés, comme celui de Perpétue, né dans une famille noble de Carthage vers l'an 200, où vivait également l'ancien docteur de l'Église Tertullien, qui témoigna avec gratitude de l'action d'une prophétesse de Dieu, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Perpétue suivait des cours de préparation au baptême et pour cette raison fut arrêté par le pouvoir d'État romain, encore païen à cette époque. En raison de son refus de respecter le culte religieux imposé, elle fut condamnée à mourir dans l'arène. En prison, le royaume de Dieu lui montra dans une vision intérieure que même si ce sont des êtres humains qui la persécutent, ce sont en fait les forces sataniques qui incitent les dirigeants assassins à s'acharner contre les disciples du Christ sur terre. Perpétue écrivit en prison tout ce qu'elle avait vu dans cette vision intérieure. Et le jour de son exécution dans l'arène, comme le taureau la blessa mais ne la tua pas, elle fut finalement tuée par un soldat appelé en renfort qui la poignarda avec son épée.
Au IVe siècle, lorsque l'Église catholique devint la nouvelle et unique religion d'État et la nouvelle persécutrice des chrétiens des origines, elle récupéra Perpétue et en fit une martyre catholique qu'elle canonisa par la suite. Ce même système qui l'avait persécutée et fait assassiner cruellement appelait donc maintenant les croyants à la vénérer comme une sainte. Mais le sarcasme ne s'arrête pas là. En effet, en référence au taureau auquel elle fut exposée dans l'arène, l'Église a nommé Perpétue protectrice des troupeaux de bétail, donc des troupeaux destinés à la boucherie, ce qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, dans les communes des origines, grâce à la parole prophétique, chacun était conscient que le commandement donné par Moïse « Tu ne tueras pas » s'appliquait également envers les animaux et signifiait de cesser de sacrifier cruellement des animaux et de consommer de la viande, ce qui suscita d'ailleurs là aussi une réaction hostile de la part de la caste des prêtres.
L'un des prophètes chrétiens les plus connus fut Mani, né en 216 en Perse. À l'âge de 12 ans, le tout jeune Mani eut une première révélation. Il témoigna ensuite, le Paraclet vivant, autrement dit l'Esprit de Dieu et le Consolateur promis par le Christ, descendit jusqu'à moi et conversa avec moi. Il me révéla le mystère de la lumière et des ténèbres. Ainsi, tout me fut révélé par le Paraclet. Par ce biais, Mani apprit également comment le Christ, le Fils de la lumière majestueux, s'était incarné et était descendu jusque dans le royaume des ténèbres afin de transformer le mal en bien par la force de son amour. Mani fonda alors une communauté selon l'esprit libre. Son message était que seul l'amour a de l'importance. Pour lui, même les ténèbres devaient être résorbées progressivement grâce à l'action de l'amour. Chacun avait la tâche de s'occuper et de prendre soin d'au moins une personne dans le besoin. Ceux qui aspiraient à être chrétiens étaient appelés à ne pas se lier ni à des personnes ni aux biens terrestres au cours de leur vie sur terre, mais à s'efforcer de parvenir à la liberté intérieure.
Pour ceux qui furent appelés les manichéens, en réalité des chrétiens des origines, l'Esprit de Dieu était présent en chaque animal, chaque plante, chaque pierre, dans toute la matière. C'est pourquoi ils étaient végétariens et respectaient toute vie. Mani fut crucifié par l'ancien système idolâtre avant même le passage de pouvoir à l'Empire romain. Les communes du christianisme des origines, qui s'orientaient sur les révélations qu'il avait données et qui s'étaient répandues jusqu'en Chine, furent rapidement victimes du catholicisme qui les persécuta sans pitié jusqu'au IVe siècle, de l'Europe occidentale à l'Afrique et jusqu'en Orient. Ils furent calomniés, privés de tous leurs droits. Leurs biens furent saisis. Ils subirent la torture, le bûcher et furent finalement exterminés. Cependant, la parole de Dieu ne put être éliminée.
Le plus grand adversaire des communes du christianisme des origines de l'époque, que l'Église appelle les manichéens, fut Augustin, considéré comme un saint et l'un des pères de l'Église au sein de laquelle il est vénéré au plus haut point, et ce jusqu'à aujourd'hui. Sur la base de sa Bible ecclésiastique, il développa l'enseignement du catholicisme pour en faire de façon systématique l'une des religions les plus cruelles qui soient. C'est lui qui conçut la doctrine des corps humains subsistant éternellement au milieu des flammes et des tourments sans jamais mourir. Dans un enfer éternel où, selon la théologie des miracles développée par Augustin, le Dieu de l'Église ferait en sorte qu'ils y subissent les pires atrocités qui soient. Et selon lui, ceux qui n'adhèrent pas à la pensée de l'Église de Rome pendant leur vie terrestre et ne s'y soumettent pas, devront vivre dans la braise, brûler sans être consumés et souffrir éternellement sans mourir, tel qu'il résume cette doctrine centrale de son enseignement ecclésiastique.
Tout comme les chrétiens montanistes avant lui, le peuple de chrétiens des origines, que l'Église dénigra en l'appelant les policiens, se forma dans l'actuelle Turquie au début du Moyen Âge. Ses responsables spirituels refusaient toute fonction de pouvoir et se nommaient compagnons du peuple. L'être humain ne devait pas se faire l'image de Dieu, mais parvenir à le trouver en lui-même. Le servage fut aboli, les pauvres bénéficièrent d'une justice gratuite et la condition des femmes fut nettement améliorée. Ils rejetaient le culte des saints et de Marie, et on peut supposer que des prophétesses ou des prophètes œuvrèrent parmi eux. L'Église, véritable résurgence du système Baal, réagit alors comme elle l'a toujours fait et avec d'autant plus de vigueur lorsque certaines de ses victimes se défendaient, ne parvenant pas à respecter leurs vœux de non-violence devant la cruauté de la persécution qu'elles subissaient. Les policiens, orientés sur le christianisme des origines, furent lapidés, brûlés, empalés et décapités. Des dizaines de milliers de personnes qui ne renièrent pas leur foi furent exécutés par les autorités de l'État et de l'Église, et tous leurs témoignages furent détruits. Mais rapidement, les chrétiens persécutés se regroupèrent d'une autre manière et en d'autres lieux.
Du Xe au XVe siècle, le message chrétien se répandit de la Macédoine du Nord à la Bulgarie, la Bosnie et la Croatie, puis dans toute la région des Balkans. Les chrétiens des origines de cette époque sont aujourd'hui appelés Bogomil, ce qui signifie « amis de Dieu ». Parmi les nombreux hommes et femmes justes de leur commune des origines, œuvraient également des messagères et des messagers de Dieu. Pour eux, ce n'était pas l'Église faite de main d'homme qui est le temple de Dieu, mais l'être humain lui-même. La véritable Église étant alors le cœur de l'être humain. Les Bogomil découvrirent de nombreuses falsifications dans les différentes Bibles. Ils rejetaient la hiérarchie et la violence. Par amour pour les animaux, ils s'abstenaient de manger de la viande et célébraient régulièrement un repas de l'amour dans la communauté. Au lieu du baptême par l'eau de l'Église, ils pratiquaient le baptême spirituel et ce, lorsque celui qui souhaitait le baptême avait développé en lui la lumière intérieure. En Bulgarie, les autorités locales tolérèrent et apportèrent même un soutien, pendant un certain temps, aux chrétiens des origines qu'étaient les Bogomil. Mais lorsque la guerre éclata entre la Bulgarie et l'Empire byzantin catholique, les prisonniers bulgares eurent les yeux crevés sur ordre de l'empereur byzantin en 1014. Cette mutilation atroce fut du pur cynisme de la part de l'Empire byzantin catholique, qui se moqua des Bogomil en disant qu'ils avaient après tout la lumière intérieure. Un seul sur 100 eut un œil épargné pour pouvoir reconduire les autres à la maison.
Chers amis, que d'horreur et de souffrance ont enduré les messagers de Dieu et les chrétiens des origines de toutes les époques, par amour pour leurs prochains et pour tous les êtres de la création. Malgré cela, il y eut régulièrement au cours de l'histoire des communes guidées par des prophétesses et des prophètes, à travers lesquelles le Christ de Dieu ou Dieu l'Éternel, le Dieu Père-Mère, purent s'adresser directement à ses enfants en habit terrestre. Et ceux qui entendaient la parole éternelle de Dieu étaient reconnaissants de recevoir une aide inestimable, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la vie de la communauté, des aides adaptées à l'époque et à la situation respective de leur pays. Ainsi, la promesse de Jésus de Nazareth s'est réalisée à de nombreuses reprises. En effet, il a dit « C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je vous enverrai des prophètes ». »
Dans la prochaine émission de cette série intitulée « La parole prophétique dans le courant du christianisme des origines, aujourd'hui et à toutes les époques » et la tentative d'éliminer les communes des origines, tous ceux qui étaient dans le sillage de Jésus de Nazareth, nous vous parlerons, entre autres, des prophétesses Hildegarde de Bilgen, Catherine de Sienne, Birgitta de Suède, ainsi que du christianisme des origines en France, avec les cathares dans le sud, mais nous parlerons aussi de Marguerite Porrette, messagère de Dieu dans le nord de la France, et également du destin de Jeanne d'Arc. Vers l'an 1200 déjà, Joachim de Flore, visionnaire de cette époque, avait annoncé une nouvelle ère dans laquelle l'Esprit de Dieu agirait avec puissance. Une ère qui fut plus tard souvent comparée à l'épanouissement d'Ulysse. Cette ère messianique et sophianique, sous le signe d'Ulysse, a maintenant commencé. Elle a été préparée pendant des siècles par le royaume de Dieu et par le Christ lui-même, grâce à d'innombrables prophétesses et prophètes de Dieu qui donnèrent leur vie pour cela.
Ce sont très souvent des femmes auxquelles Dieu, l'Éternel, donna la mission d'apporter aux êtres humains un enseignement leur permettant de développer l'amour pour Dieu et pour le prochain et de trouver sur terre le chemin menant à la patrie éternelle. Avec, en tête, le séraphin de la sagesse divine, qui s'incarna à notre époque en Gabriel, sa prophétesse. Ce qu'elle a pris sur elle pour accomplir sa mission est indescriptible. En 2017, dans une révélation intitulée « Le retour de Sophia, la sagesse divine, dans la maison du Père éternel », son dual spirituel, le chérubin de la sagesse divine, dit à ce propos, je cite, « Lors de toutes ces incarnations, j'ai été aux côtés de mon dual spirituel et j'ai dû voir, par exemple, comment des frères qui eux aussi faisaient partie de la mission divine et avaient promis à l'Éternel de soutenir leur sœur, mon dual spirituel incarné, l'ont, malgré cette promesse, si souvent laissé porter seule cette responsabilité. De tout temps et jusqu'à aujourd'hui, c'est quasiment seule qu'elle a dû porter sa lourde tâche et suivre sa route afin de rester fidèle à sa mission, celle de donner la parole de Dieu. Tout particulièrement dans les moments où la foule échauffée par les autorités religieuses proférait d'acerbes condamnations, les frères prenaient la fuite. Ainsi, selon les époques, elle a été livrée au bourreau, à la guillotine, au garrot ou au bûcher. J'ai dû assister à tout cela et je n'avais la possibilité d'apporter mon soutien à son âme que lorsque, pétrie de peur et de douleur, elle avait quitté le corps physique.
Chers amis, ces paroles bouleversantes du chérubin de la sagesse divine à propos de Gabriel, la prophétesse et messagère de Dieu en cette grande époque de transition, révèlent à quel point le Dieu Père-Mère de l'amour lutte constamment pour tous ses enfants. Elle révèle ses efforts incessants pour les libérer de la souffrance qu'ils ont eux-mêmes causée et leur montrer dans ce but le chemin qui passe par la mise en pratique des 10 commandements de Dieu et du sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth. C'est le chemin auquel chaque âme aspire au plus profond d'elle-même dans son noyau central. C'est le chemin sur lequel toutes les âmes peuvent être ramenées après leur vie terrestre dans la patrie éternelle auprès de leur famille céleste. Il y a des temps immémoriaux, elles ont quitté cette patrie éternelle pour suivre les êtres déchus satanistes dans les profondeurs, ces êtres qui avaient proclamé être capables de créer un monde meilleur que celui de Dieu l'Éternel. L'état de ce monde montre où cela a conduit, à la misère, à la détresse et à l'oppression, à des souffrances indicibles pour les êtres humains, les animaux et la planète Terre tout entière. Aujourd'hui, la Terre-mère, la nourricière des êtres humains, est à l'agonie et se cabre de plus en plus pour se défendre contre l'espèce humaine dégénérée et ses systèmes de domination, d'exploitation, de guerre et de violence. C'est ce qui est qualifié à notre époque de changement climatique, un terme qui minimise les choses.
L'histoire des 2000 dernières années montre aussi comment le message libérateur de paix apporté par Jésus de Nazareth est usurpé de la manière la plus infâme qui soit par les adeptes des mondes de la chute et comment les êtres humains sont trompés et séduits depuis des siècles par des dirigeants religieux qui se sont parés de l'étiquette chrétienne, mais qui, depuis des siècles, apportent sur terre le contraire de ce que Jésus de Nazareth a enseigné et vécu. Ils portent ainsi la responsabilité d'incibles bains de sang et d'atrocités sans nom. Karl-Heinz Deschner, historien allemand de renom, a un jour résumé cela en des termes on ne peut plus parlants. Je cite « Après avoir fait des recherches intensives sur l'histoire de la chrétienté, je ne connais aucune autre organisation au monde que l'Église chrétienne, tout particulièrement l'Église catholique romaine, qui se soit chargée de crimes de manière si continue et si abominable au cours de toute l'histoire, que ce soit dans l'Antiquité, le Moyen-Âge ou l'époque moderne, y compris et surtout au XXe siècle. »
Mais le temps de ces institutions chargées de crimes est désormais révolu. Alors qu'au cours des siècles passés, le message des prophètes et des prophétesses de Dieu se répandait tantôt dans un pays, tantôt dans un autre, et ne touchait parfois qu'un nombre très restreint de personnes, aujourd'hui, le même appel retentit à travers d'innombrables radios et chaînes de télévision sur tous les continents de la Terre, un appel qui dit en substance « Peuple de la Terre, réveillez-vous et prenez conscience de qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous-même et où l'aspiration profonde de votre âme vous conduit. Sur le chemin de l'amour pour Dieu et pour le prochain, et à Dieu l'Éternel qui habite aussi en chacun de vous, comme l'a déjà enseigné Jésus de Nazareth. Dieu en toi, Dieu en chaque être humain, en chaque être vivant, Dieu dans toutes les formes d'existence. C'est Dieu, l'amour éternel et infini, qui ne connaît rien d'autre que l'amour et qui n'abandonne aucun être humain, aucun animal, aucune forme de vie. C'est ce Dieu Père-Mère qui tend inlassablement sa main pour soulager la souffrance et sauver ceux qui veulent être sauvés. Dieu, l'un éternel et universel, nous parle à nouveau aujourd'hui comme il a toujours parlé dans les communes des origines des siècles passés, également à travers la parole prophétique. C'est empli de gratitude envers tous les messagers de Dieu et tous les hommes et les femmes justes que nous qui marchons dans le sillage de Jésus de Nazareth, nous nous penchons au cours de cette série d'émissions sur leur vie sur terre. Ils ont préparé, grâce à la parole de Dieu, ce qu'il nous est permis de vivre aujourd'hui, la parole prophétique, la présence éternelle de Dieu, qui n'est pas seulement diffusée en certains lieux de cette terre, mais sur tous les continents, par l'image et le son, par d'innombrables chaînes de télévision et de radio. Chers amis, nous prenons congé de vous pour aujourd'hui et serons heureux de vous retrouver pour la suite de cette série intitulée « La parole prophétique dans le courant du christianisme des origines, aujourd'hui et à toutes les époques » et « La tentative d'éliminer les communes des origines » tous ceux qui étaient dans le sillage de Jésus de Nazareth. Au revoir et une chaleureuse salutation en Dieu.